Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce 364e numéro de Mélomanie. Le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale a fait sa rentrée la semaine dernière et je pense que tout le monde ou presque a repris désormais le chemin du travail ou de l'école pour les plus jeunes d'entre nous. Notre émission de rentrée était consacrée à la 47e édition de Piano Jacobin. J'en profite pour rappeler que le concert d'ouverture a lieu ce mardi 8 septembre à 20h, donné par le pianiste espagnol Javier Perianes. Aujourd'hui, c'est un autre grand événement musical toulousain qui va nous intéresser, le cycle des grands interprètes, dont la 41e saison commence le lundi 12 octobre. Il y a 18 concerts dans la programmation 26-27, avec, comme de coutume, les plus grands solistes et les plus prestigieuses formations de la scène internationale classique, sans oublier quelques belles soirées dédiées au jazz. Pour vous la présenter, j'ai l'honneur de recevoir Thierry Dargoubet, conseiller artistique des grands interprètes. À ses côtés, je retrouve Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est parti pour une longue et copieuse rubrique Agenda.
Mélomanie. L'agenda.
Bonjour Serge, bonjour Thierry, bonjour. Très heureux de vous accueillir bonjour pour explorer Olivier. Avec vous la programmation de cette 41e saison des grands interprètes. La précédente était à marquer d'une pierre blanche, puisque c'était celle des 40 ans de la création de ce cycle, qui tient vraiment une place à part à Toulouse. Je le redis encore, mais depuis 1986, on y a vu et entendu ce qui se fait de mieux sur les scènes classiques et jazz internationales. Thierry, comment s'est passée cette saison spéciale 40e anniversaire ?
C'est une saison qui se voulait brillante sur le papier. On a eu la chance que le public ait eu envie de venir. Et donc, on est très heureux. Et ça nous permet de voir un avenir plutôt serein dans des temps quand même passablement compliqués. Non, on est très heureux et on a surtout la foi et toute l'équipe est très positive pour accompagner nos développements.
La programmation de la 41e saison est tout aussi prestigieuse et alléchante que celle de la 40e. Vous l'ouvrez donc le lundi 12 octobre à 20h à la Halle au Grain avec un concert donné par le Cercle de l'Harmonie. C'est un ensemble fondé et dirigé par Jérémy Rohrer, associé pour l'occasion au chœur Orfeon Donostiara. Alors, le second Orfeon, c'est un ensemble qu'on connaît de longue date à Toulouse, plus de 40 ans. Une seule œuvre au programme, le célébrissime Requiem de Verdi. Mais concernant le Cercle de l'Harmonie, puisque c'est l'invité principal de ce concert, je crois que c'est une première pour eux dans votre saison.
Je pense que c'est une première. Je me tourne vers Serge, oui. Qui est finalement
la mémoire vivante.
La mémoire de nos concerts, des concerts toulousains.
Oui, oui, absolument.
C'est la première. Hein.
C'est la première fois que l'on entendra et que l'on verra le Cercle de l'Harmonie. Alors, qui joue des œuvres avec une interprétation, entre guillemets, historiquement informée. Et donc, il va nous donner vraisemblablement une vision inhabituelle pour nous de ce fameux Requiem de Verdi. Donc, on attend ça avec une curiosité avivée.
Voilà. Et en fait, Jérémy Rohrer est en résidence à la Philharmonie de Paris. Il vient très régulièrement. Et cette résidence, d'ailleurs, se poursuit avec Verdi. Donc, il donne une fois par an un opéra de Verdi en version concert. Et là, cette année, c'est le Requiem de Verdi. Donc, les Parisiens pourront voir à la Philharmonie et les Toulousains à Toulouse, à la Halle au Grain. La partition, c'est quand même une œuvre d'une puissance dramatique exceptionnelle. Moi, je suis certain que Jérémy Rohrer a tous les atouts, justement, avec son ensemble et également avec le chœur Orfeon Donostiara qu'on connaît évidemment tellement bien à Toulouse. Donc, ce sera un moment, je pense, rare et d'une belle intensité dramatique.
Oui, chœur remarquable. Absolument. Parmi les meilleurs d'Europe. Pour ce style de musique et de soirée, on peut difficilement avoir mieux. On les connaît, je le disais.
Mais c'est Michel Blasson qui les avait invités pour la première fois.
J'ai un enregistrement du Requiem de Fauré, date de 84 avec Orfeon. Oui.
Alors il y a d'ailleurs un enregistrement du Requiem de Verdi avec Michel Blasson et l'Orfeon.
Oui,
qui date assez longtemps.
Plus récent que celui de Fauré.
Voilà. Et en fait, l'Orfeon Donostiara était le chœur préféré de Claudio Abbado.
Oui.
Donc, quand il était directeur musical des orchestres de
BPO,
Berlin, il l'invitait.
Ouais.
Et à Lucerne, quand il avait monté son orchestre de Lucerne, le chœur venait quasiment tout le temps.
Un mot peut-être sur les solistes, les chanteurs solistes donc, qui vont se produire ce soir-là. Alors la soprano, pour l'instant, je crois qu'à moins que ça soit...
Alors elle est toujours...
Voilà, elle est toujours...
On la recherche toujours.
On recherche.
Elle va venir. Et puis après, c'est des chanteurs que l'on voit un peu partout dans le monde musical. Donc ils ont été choisis avec soin par Jérémy Rohrer, qui est également un très bon chef d'opéra.
Donc il y a Agnieszka Relis, ça sera la mezzo,
le ténor
Andrei Danilov, et puis la basse William Thomas.
Bill Thomas, voilà.
On aura une superbe distribution donc, pour ce concert d'ouverture de la 41e saison des Grands Interprètes. Lundi 12 octobre, amateurs à la Halograin, tous les concerts ont lieu à la Halograin. Le concert suivant est programmé le jeudi 5 novembre et on y retrouve des habitués du cycle des Grands Interprètes, l'Orchestre de Chambre d'Europe et le pianiste Alexandre Kantorov. Vous les recevez très souvent, ce dont personne n'aura l'idée de se plaindre, je pense. Ce sont là vraiment de grandes pointures internationales. Il y aura quand même une première, ce sera celle du chef, voilà. Le britannique, enfin, britannico-italien, italo-britannique, Antonio Papano.
Voilà, il est né en Italie, il a dirigé l'orchestre de la Santa Cecilia pendant, je sais pas, 20-25 ans. Et ensuite, l'opéra Covent Garden et maintenant le London Symphony Orchestra. C'est un très grand chef, effectivement, qui n'est jamais venu à Toulouse. Et moi, je suis particulièrement heureux parce que le Chamber Orchestra of Europe, en fait, ce sont des amis. Et ils viennent régulièrement.
Oui,
et
oui,
cette année, l'idée, c'était de, ben, qu'ils viennent à Toulouse, ils répètent à Toulouse. En fait, la résidence de ce programme a lieu à Toulouse. Alors, ce n'est pas très facile, d'ailleurs, pour la logistique, pour trouver les salles, etc. C'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Et c'est peut-être un signal, si vous voulez, un signe que l'orchestre s'attache de plus en plus à Toulouse.
À notre ville rose, le programme, vous en parliez, qu'est-ce que l'on va entendre ce soir-là ?
Ah ben, ce soir-là, on va entendre le premier concerto de Brahms avec Alexandre Kantorov et la 7e symphonie de Dvorak, une œuvre vibrante d'énergie et de lyrisme.
Ben, on peut être heureux d'avoir Kantorov dans ce premier concerto de Brahms, qui est d'un lyrisme échevelé en quelque sorte.
Et
on a l'impression qu'il est fait pour ça, hein, voilà. Alexandre Kantorov. C'est un grand pianiste.
C'est
vraiment
un très grand pianiste et à qui, d'ailleurs, on a donné une espèce de carte blanche à Toulouse. Donc, il sera soliste avec le concerto de Brahms, premier concerto. Et il revient un peu plus tard en musique de chambre.
On va en parler aussi, bien sûr, de ce concert qui sera l'occasion de sa seconde production à Toulouse lors de cette saison 26-27 des Grands Interprètes. Voici Alexandre Kantorov dans une exécution du concerto pour piano et orchestre numéro 1 en ré mineur de Johannes Brahms. Il s'agit du rondo, le troisième mouvement. Thank you. Le troisième mouvement rondo du concerto pour piano et orchestre numéro 1 en ré mineur de Johannes Brahms dans une version de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec Alexandre Kantorov, qui joue donc cette même œuvre, accompagné par l'Orchestre de Chambre d'Europe, jeudi 5 novembre à 20h. Peu après, mardi 17 novembre, premier rendez-vous avec le piano seul pour un récital d'un des plus grands pianistes en activité, Nikolaï Louganski. Ça, c'est vraiment une soirée à ne pas manquer, d'autant plus qu'il me semble qu'il y a assez longtemps, pour ne pas dire très longtemps, que le musicien russe ne s'est pas produit à Toulouse, Thierry.
Oui, en fait, je l'avais invité en tant que soliste de l'Orchestre du Capitole, deuxième concerto de Rachmaninov, il y a très longtemps. Non, mais c'est une figure majeure du piano d'aujourd'hui, du piano contemporain. Et donc, il va nous inviter à un voyage où la poésie tourmentée de Schumann dialoguera avec l'élégance et la virtuosité souveraine de Chopin.
Oui, effectivement, il y aura trois pièces extraites des Fantasiestücke de Schumann et Carnaval de Vienne du même Schumann, le merveilleux Carnaval de Vienne. Et donc Chopin, la barcarolle en fa dièse majeur opus 60, trois impromptus, le scherzo numéro 4 et une polonaise, la polonaise en la bémol majeur opus 53. Donc bon, formidable programme, Serge. Ouais, je suppose que comme moi, vous vous réjouissez de retrouver Nikolaï Louganski à Toulouse. Moi, j'ai jamais entendu à Toulouse, j'ai entendu ailleurs. Mais vous, peut-être que oui.
Absolument. Et puis ce programme de mettre en dialogue Schumann et Chopin, c'est une excellente idée. Oui, hein. La poésie est là, la sensibilité, l'imagination. Puisque Schumann, c'est les fantaisies. En allemand, ça veut dire imagination. Ça ne veut pas dire fantaisie, en fait. Hein. Oui, donc, c'est formidable. Hein. C'est un beau programme.
On attend avec grande impatience.
Piano romantique. Voilà. Alors, je signale au passage que Nikolaï Louganski a fait paraître en début d'année un CD Schumann sous le label Harmonia Mundi. Ça a toujours été son label, d'ailleurs, depuis qu'il enregistre. Et donc, il y a sur ce CD, justement, une interprétation de Carnaval de Vienne. Alors, il est trop tentant d'écouter Nikolaï Louganski jouer cette pièce qui est au programme de son récital du 17 novembre. J'ai choisi donc un extrait de Carnaval de Vienne de Robert Schumann, interprété par Nikolaï Louganski. Lumineuse interprétation du sublime Carnaval de Vienne de Robert Schumann par Nikolaï Louganski. C'est l'une des pièces au programme du concert que donne le grand pianiste russe mardi 17 novembre à 20h à la Halle au Grain. On change totalement de répertoire et de période pour le concert suivant. Samedi 5 décembre, en passant du piano romantique à la musique vocale baroque, vous accueillez ce soir-là le célèbre contre-ténor Philippe Jarouski, accompagné par son ensemble Artaserse. Le programme est entièrement dédié à Antonio Vivaldi, Thierry.
Voilà, donc c'était l'idée de Philippe de revenir à Toulouse avec un programme Vivaldi. Il y aura le Stabat Mater situé entre la méditation sacrée de ce Stabat Mater et du Nisi Dominus, évidemment, et avec quelques extraits d'opéra qui donneront un côté théâtral avec un grand éclat à ce concert.
Et d'ailleurs, le concert est sous-titré « Il mio Vivaldi ». C'est mon Vivaldi.
Et en fait, Vivaldi, il enseignait dans un ensemble, oui, un orphelinat, oui, oui, pour jeunes filles à Venise. Et c'est pour elle, justement, qu'il a composé certaines de ses œuvres les plus émouvantes, dont le fameux Nisi Dominus.
Voilà, donc il y aura effectivement des airs extraits d'opéra. Alors, les opéras de Vivaldi, c'est pas ce qu'il y a de plus connu dans son œuvre, Serge.
Non.
Justement, c'est pour ça que c'est intéressant.
Et pourtant, il en a composé de très nombreux.
Oui, mais qui sont rarement donnés, alors, oui, sauf certains quand même, hein, mais.
Alors,
les
grands interprètes, on en donnait de temps en temps.
Oui, oui.
Avec ce violoniste et chef breton dont j'ai oublié le nom, si, Jean-Christophe Spinozzi.
Ah oui, 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 oui.
Et Nicole Lemieux, justement, avait fait ses débuts à Toulouse avec Jean-Christophe, ah, oui, et son ensemble dans un opéra de Vivaldi.
Alors, un mot sur Artaserse, c'est parce que c'est vraiment un ensemble qu'a fondé Philippe Jarouski, mais qui est maintenant, j'ai regardé, c'est 2002, donc.
Ah bah oui,
oui, oui, donc les musiciens d'Artaserse sont très, très attachés à Philippe Jarouski, et sachant que d'ailleurs Philippe Jarouski dirige de temps en temps, va diriger de plus en plus.
Pour illustrer ce programme Vivaldi donné samedi 5 décembre par Philippe Jarouski et l'ensemble Artaserse, je vous propose d'écouter la version qu'ils avaient enregistrée il y a pas mal d'années maintenant du Stabat Mater du grand compositeur vénitien Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater Dolorosa, extrait du Stabat Mater de Vivaldi, interprété par Philippe Jarouski, accompagné par son ensemble Artaserse. Ils sont en concert à la Halle au Grain le samedi 5 décembre à 20h bien sûr, pour un programme entièrement dédié au compositeur italien. Il ne faut attendre que 3 jours pour le rendez-vous suivant, mardi 8 décembre, avec d'autres fidèles du cycle des grands interprètes, le chœur Accentus et l'Insula Orchestra, sous la direction de leur fondatrice Laurence Equilbet. L'enchaînement est intéressant puisque d'un programme entièrement dédié à Vivaldi, on passe à un programme intégralement consacré à son illustre contemporain, Jean-Sébastien Bach.
Alors, vous parlez de Laurence Equilbé qui vient régulièrement. Elle vient régulièrement depuis 3 saisons, en fait.
Oui.
Et la première fois, c'était avec le Messie de Handel. Ensuite, c'était l'année dernière avec la messe en site de Bach. Et c'est vrai que son chœur est absolument magnifique. Et elle fait un travail absolument remarquable à la scène musicale. On a toujours très envie d'imaginer des projets avec elle. Et donc, ce soir-là, effectivement, il y aura 2 cantates de Bach et le célèbre Magnificat. Pour une soirée lumineuse, j'espère, où solistes et chœurs vont révéler toute la puissance expressive et la profondeur spirituelle du compositeur.
Oui, alors avec 4 chanteurs solistes, on va les citer parce qu'il y a un Toulousain dedans, Pierre-Yves Cras, qu'on commence à bien connaître à Toulouse,
hein,
qui est très demandé,
basse
formé au Conservatoire de Toulouse. Très très bon, vraiment. Alors il y a William Shelton aussi, qu'on a entendu à l'Opéra National du Capitole, je ne me rappelle plus, mais il était dans Voyage d'automne.
Dans
Voyage d'automne.
Absolument.
Donc il s'appelle William Shelton, mais il est français. Hein. On parlait de contre-ténor tout à l'heure en parlant de Philippe Jaroussky. Bon, voilà un jeune qui est dans la génération montante.
Voilà.
Et puis donc on aura Anna Viera Leite en soprano et Chiara Scherat en mezzo-soprano. Alors super programme, hein, vous l'avez dit.
Il y a le Magnificat. Et de merveilleux chanteurs aussi.
Oui, là c'est vraiment une très très belle soirée en perspective. Ce sera le dernier concert de 2026, le premier de l'année 2027 ayant lieu le samedi 23 janvier pour le retour des musiciens du Louvre de Marc Minkowski qui se produisent aux côtés du chœur Ethésias. Après Vivaldi et Bach, et bien Mozart est à son tour à l'honneur, lui aussi à travers sa musique religieuse. Nous allons avoir droit ce soir-là à rien moins que sa grande messe en ut et son fameux Requiem.
Alors ça, c'est très rare, c'est l'idée de Marc Minkowski, qui est vraiment un interprète privilégié de Mozart. Et donc l'ensemble, on ne l'a pas invité depuis très longtemps, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que, en fait, je rencontre Marc Minkowski pour qu'il nous donne envie de revenir. Et donc ce sera chose faite avec le chœur Ethésias, qui est en fait un nouveau chœur à Paris, professionnel, que Marc Minkowski fait travailler maintenant depuis quelques temps.
Bah, ça sera une découverte pour nous, Serge, hein, ce chœur Ethésias.
Absolument. Et puis, alors, deux des grandes œuvres de Mozart.
Le
Requiem, évidemment. Oui. Et la messe en ut, qui est une merveille absolue.
Oui.
Donc,
toute la question est de savoir, est-ce qu'on met le Requiem avant et on finit par la messe en ut. Je pense que c'est peut-être ce qui va se passer, parce que pour Marc Minkowski, c'est le bon timing, c'est la bonne façon de programmer ces deux œuvres.
Bah, la messe en ut est très brillante comme caractère, hein, par rapport au Requiem,
qui est
très éthéré, très sensible.
Alors probablement, les dernières notes seront celles de la messe en ut. Je suis très très heureux que Marc Minkowski
puisse revenir. Oui, parce qu'effectivement, il y a un petit moment qu'on les avait pas vus, les musiciens du Louvre, avec Marc Minkowski à leur tête.
Et je pense qu'on le reverra régulièrement.
Pour se mettre dans l'ambiance de ce concert, petits extraits du Requiem de Mozart dans une version des musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski.
Oh,
Petits extraits du Requiem de Mozart interprétés par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. Ils sont en concert le samedi 23 janvier prochain en compagnie du chœur Ethésias à 20h à la Halle aux Grains. Quelques jours plus tard, jeudi 28 janvier, vous recevez d'autres fidèles, en grands fidèles du cycle des grands interprètes, qui vont se produire cette fois-ci ensemble, en duo, la pianiste Martha Argerich et le violoniste Renaud Capuçon. Inutile de présenter ces deux stars de la scène classique actuelle, nous allons nous contenter de préciser leur programme. Qu'est-ce qu'ils vont jouer, Thierry ?
Alors, ils vont jouer une sonate de Prokofiev, la sonate numéro 2, de Schumann, la sonate numéro 1, et de Beethoven, parce que c'est quand même l'anniversaire Beethoven.
Ah oui.
Et on a besoin, effectivement, voilà. Et donc, ce sera la sonate à Kreutzer. Donc, Martha Argerich et Renaud Capuçon, en fait, se connaissent depuis pas mal de temps.
Ah, oui,
jouent depuis pas mal de temps.
Amis.
Et l'idée, c'est effectivement que ces deux artistes que nous aimons beaucoup à Toulouse puissent revenir ensemble.
Bah, ils font profiter parce que bon, Martha Argerich a fêté ses 85 ans en juin dernier.
Mais
enfin,
elle est toujours en pleine forme.
Hein,
oui,
ouais.
Chacun des concerts de Martha Argerich sont vraiment uniques, si vous voulez. Elle est tellement portée par une énergie spontanée,
oui,
une incandescence incroyable. Il suffit d'ailleurs de voir l'attachement du public quand Martha arrive sur le plateau.
Oui.
C'est toujours quelque chose.
Oui.
C'est vrai, non,
oui.
Non,
c'est,
nous, on a beaucoup de chance parce qu'elle adore Toulouse, en fait.
Oui, ça, et on me l'a souvent dit, qu'elle aimait beaucoup venir jouer ici.
Elle aimait beaucoup Toulouse, et donc on joue un peu là-dessus aussi. Mais c'est, voilà,
c'est une chance immense, ça. Je ne sais pas, Serge, ce que vous en pensez d'avoir Martha Argerich tous les ans à Toulouse.
Ah, oui, c'est un privilège, on peut dire. Hein.
Oui, 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 c'est une grande chance surtout.
Voilà,
parce qu'il se passe toujours quelque chose.
Oui, absolument. Puis alors, les entendre tous les deux ensemble, on est plutôt habitué à les voir, Renaud Capuçon, où il joue avec David Frey, par exemple, ou avec son orchestre de chambre de Lausanne, comme c'était le cas la saison dernière.
Où il prend le bâton.
Où il prend le bâton et il dirige de plus en plus, hein, Renaud Capuçon.
Ouais.
Et de mieux en mieux, je trouve, personnellement. Ouais. Voilà, donc on aura un superbe programme, sonate pour violon et piano numéro 2 de Prokofiev, la sonate pour violon et piano numéro 1 de Robert Schumann, et donc la sonate à Kreutzer de Beethoven pour les 200 ans de sa mort en 2027. On écoute le duo Martha Argerich-Renaud Capuçon qui joue ici la sonate pour violon et piano numéro 1 de Robert Schumann. La sonate pour violon et piano numéro 1 de Robert Schumann, jouée par le duo Martha Argerich-Renaud Capuçon, que vous avez donc invité le jeudi 28 janvier. Un autre duo est à l'affiche de la Halle aux Grains, mardi 22 février. Violon-piano, celui-ci, il est tout aussi prestigieux, puisque formé par le violoniste arménien Sergei Khatchatryan et le pianiste Alexandre Kantorov, que l'on va donc entendre à deux reprises cette saison aux grands interprètes. Khatchatryan, en revanche, il y a un petit moment que vous ne l'aviez pas fait venir, il me semble.
Oui, il n'est jamais venu dans la série des grands interprètes. Il était invité
avec l'orchestre.
Avec l'orchestre du Capitole. Et en fait, l'idée, c'était de demander à Alexandre avec qui il voulait revenir à Toulouse, dans un moment de musique de chambre. Et il m'a dit très clairement, j'ai un projet avec Sergueï Skhachatryan, que je tiens vraiment particulièrement à cœur. Et donc, voilà, on verra, je pense, un beau moment de musique de chambre. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a une alchimie sonore qui s'est mise immédiatement en place avec eux.
Le pianiste, pas besoin d'en dire tout le bien qu'on en pense, mais Skhachatryan, c'est quand même une super pointure du violon international.
C'est une très grande personnalité du violon, effectivement, qu'on n'entend pas toujours, enfin pas trop souvent.
Non.
Et non, moi je pense que ce sera un magnifique, magnifique moment de musique, et avec un programme, effectivement, où j'ai demandé très clairement une sonate de Beethoven, donc ce sera
la troisième.
Et ensuite, voilà, la sonate numéro 3 pour violon et piano de Brahms, qui est une merveille absolue. Et ils termineront par la sonate pour violon et piano de Debussy, qui est aussi très très belle.
Puis on aura Richard Strauss, sonate en bémol majeur.
Et une œuvre de Baba Djanan.
Compatriote de Skhachatryan. Ah, mais il y tient toujours, je pense, qu'on entend d'un compositeur arménien. Oui. Au pire en bis, mais il y en a toujours un. Et ben, il a bien raison, parce que c'est un peuple de musiciens, de grands musiciens, les Arméniens. La suite, c'est le premier concert de jazz de la saison. Alors je pense que les passionnés l'ont déjà noté sur leur agenda. C'est le contrebassiste et chanteur israélien Avishai Cohen qui le donne lundi 15 février à 20h bien sûr, entouré de 4 autres musiciens. Je vais seulement indiquer qu'il va jouer ses propres compositions sur des poèmes de Leonard Cohen. Alors ça m'intrigue beaucoup, je ne dois pas être le seul. Vendredi 26 février, nous avons rendez-vous avec une autre fidèle de votre cycle de concerts, Thierry, la pianiste franco-géorgienne Katia Bouniatichvili. Elle aussi, on ne la présente plus guère, et comme à son habitude, elle n'a pas encore communiqué le programme qu'elle veut jouer.
Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une star du piano international, qui a un charisme vraiment magnétique. Quand elle est sur scène, elle libère une énergie absolument incroyable. Et elle prend beaucoup de risques dans son jeu. Et elle le fait dans le répertoire, évidemment, qu'elle affectionne, plutôt du romantisme à la première moitié du XXe siècle.
Alors, pas d'indiscrétion, c'est pas du tout ce qu'elle va jouer.
Pour l'instant, c'est pas encore précisé, mais on va la voir, je pense, probablement le mois prochain.
Elle a le temps, parce que c'est fin février, vous voyez, mais oui, bon, on est toujours un petit peu impatient de savoir ce qu'elle va nous proposer. Donc, Katia Bouniatichvili, vendredi 26 février, samedi 13 mars, deuxième concert de jazz de la saison, proposé par la chanteuse américaine Robin McKell. Elle est déjà venue aux grands interprètes. Et là, elle vient avec son trio pour un hommage à Ella Fitzgerald. Alors, je pense que là aussi, les amoureux des grandes voix du jazz ont déjà coché cette date dans leur agenda. Vendredi 19 mars, après les soirées Vivaldi, Bach et Mozart, ben voici la soirée Beethoven, bien sûr, de cette saison 26-27, inévitable. C'est l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon qui la donne. Au centre, un tube, un super tube de la musique classique, la formidable 9e symphonie, dite « Hymne à la joie ». Et avant cela, il y a au programme des extraits de 2 autres pièces de Beethoven, Thierry, largement moins connues et moins jouées.
Oui, « Le roi Étienne » et « Les ruines d'Athènes », ça c'était le désir de Raphaël Pichon. Mais ce que je dois dire, c'est que c'est, enfin, pour moi, un concert très important, parce que Raphaël Pichon, c'est la grande personnalité.
Ah oui.
Enfin, j'ai dit entre parenthèses baroque, du moment, et il a créé donc un orchestre magnifique, un chœur également magnifique, ce qui est assez rare. Donc moi, je suis certain qu'il va délivrer avec une interprétation très habitée, avec une intensité folle et probablement une grande humanité. Donc c'est un moment, je pense, assez rare qu'on va entendre. Et ce concert, d'ailleurs, il rentre en résonance avec 2 anniversaires, celui du traité de Rome, qui est l'acte fondateur de l'Europe,
oui.
Qui a été signé le 25 mars 1957, et puis aussi celui de la disparition de Beethoven, évidemment, le 27 mars 1827. Donc, moi, je mettrais ce concert vraiment un peu à part.
Serge, le roi Étienne, oui. Les ruines d'Athènes.
Ben oui, c'est pas très
ça en concert, vous
En concert, non, mais alors...
Les ruines d'Athènes, on en a entendu une fois, je crois.
Alors, c'est amusant, parce que les ruines d'Athènes, ça figurait dans le tout premier disque micro-sillon que j'ai acheté lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la musique classique. Donc, vous voyez, ça...
C'est un petit cadeau pour vous de Raphaël Pichon. Il devait le savoir, j'en suis sûr. Bon, alors, il y aura évidemment 4 chanteurs ce soir-là. La soprano, on ne sait pas encore. La basse non plus. Mais nous aurons Bess Taylor en mezzo-soprano et Robin Trichler en ténor. Bon, bah, écoutez, ce sera des découvertes. En tout cas, moi, je ne les connais pas.
On est comme la Philharmonie de Paris. On attend...
le reste de la distribution.
Le reste de la distribution. Et ce que je dois dire d'ailleurs, c'est que tous ces concerts, en fait, ont lieu très souvent avant ou après Paris.
À Paris.
Que ce soit au Théâtre des Champs-Élysées ou à la Philharmonie de Paris.
Jeudi 15 avril, comme chaque saison depuis quelques années, concert de retrouvailles entre le public toulousain et son cher Tugan Sokiev, qui dirige à cette occasion l'orchestre philharmonique de Radio France, qu'on appelle le Philhar. La grande violoniste allemande Julia Fischer est également invitée à cette soirée. Quelles œuvres vont-ils jouer, Thierry?
Alors, Julia Fischer interprétera le concerto pour violon numéro 5 de Mozart, et Tugan sera dans son jardin, qui n'est pas de pré-secret.
Non.
Qui est la 12e symphonie de Shostakovich.
Ah oui.
Et en fait,
oui.
J'ai des anecdotes. La dernière fois, quand Tugan est venu avec le Philhar, c'était un peu les retrouvailles 20 ans avant. Et le concert avait lieu avant Toulouse, c'était Paris. Et Bador, le directeur de l'orchestre, m'appelle, me dit: Thierry, écoute, après ce concert, ce que je peux te dire, c'est que les musiciens ont trouvé... C'était un des meilleurs concerts, pardon, du Philhar depuis les 30 dernières années.
Ah oui.
Et donc, ce qui est incroyable, c'est que on a la chance de le connaître. Donc, il est venu avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, la Staatskapelle de Dresde, l'Orchestre Philharmonique de Munich, le Mahler Chamber Orchestra. Et là, il est dans une dynamique artistique totalement folle. C'est vraiment un des plus grands chefs de la planète. Et d'ailleurs, il sera au concert du
Nouvel An.
Voilà, le concert du Nouvel An
à Vienne.
À Philharmonie de Vienne, cette fois.
C'est quand même
Parce que les musiciens de Vienne, en fait, l'adorent, comme les musiciens de Berlin.
Ouais.
Mais Vienne, c'est spécial, parce qu'il n'y a pas de directeur musical.
Et non.
Ouais. Là, et alors, nous, évidemment, avec mon épouse Catherine, on est très heureux, parce qu'il y a un petit mois, il nous appelle et il nous dit: voilà, Thierry, Catherine, vous serez mes invités pour le concert Nouvel An à Vienne.
Ah, parce que ça devant ma télé pour essayer de vous voir.
Oh là là.
Parce que c'est impossible d'avoir des places.
Ah ben non,
j'imagine.
Ça doit être hors de prix. Enfin, il y a des gens qui viennent du monde entier. Là, hein.
Quel privilège.
Il a eu la voix à 4 places.
Il y en a 2 pour vous. Bon, bah, écoutez, vous et Catherine.
Non, et ça, pour nous, évidemment, on a été très, très émus quoi, de ce geste d'une très grande générosité.
Et puis quelle reconnaissance pour lui, quoi.
C'est, ah bah oui.
Diriger le concert du Nouvel An.
Oui. Retransmis dans le monde entier.
Et c'est le concert, en fait, qui a la plus grande audience mondiale
de
musique classique.
Je ne saurais même pas dire combien de centaines de millions de gens.
C'est énorme.
Peut-être même
énorme.
Ça arrive au milliard, j'en sais rien.
Et l'année dernière, c'était donc Yannick Nézet-Séguin, qui est évidemment quelqu'un qu'on connaît bien.
Oui, aussi.
Je l'avais invité à l'Orchestre du Capitole pour son premier concert en Europe.
Oui.
Donc du coup, on avait pu tisser des liens.
Bon, donc on aura de nouveau un chef qui sait parler français.
Oui.
C'est bien. Parce que les chefs français au concert du Nouvel An, à part Georges Prêtre, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu d'autres.
Je ne crois pas.
Deux fois, il me semble. Voilà. Mais je crois que c'est le seul. Hein.
C'est vrai que c'est une consécration absolument incroyable.
Ah oui, formidable. Pour les chefs d'orchestre. Julia Fischer est aussi une des grandes du violon actuel. Nous allons pouvoir l'écouter dans le premier mouvement Allegro Aperto du concerto pour violon numéro 5, KV-219, dit turc de Mozart. le premier mouvement Allegro aperto du concerto pour violon numéro 5 turc de Mozart, une version avec Julia Fischer. La violoniste allemande est en concert aux côtés de l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Tugan Sokiev, jeudi 15 avril à 20h, et encore du jazz lundi 26 avril pour le troisième concert de la saison. Le pianiste Chucho Valdés, légende du jazz cubain, en est la vedette. Il se produit avec son quartet, je n'en dis pas plus parce que je sais que ses fans ont déjà compris qu'il ne fallait pas rater cette date. Vendredi 30 avril, vous avez invité, alors je crois que c'est une première, le San Diego Symphony Orchestra, dirigé par le chef vénézuélien Rafael Payare. L'ensemble américain accompagne, c'était un violoniste cette fois-ci, le grec Leonidas Kavakos, dont je crois qu'il s'agit aussi pour lui de la première venue à Toulouse. Est-ce que vous confirmez, Thierry ?
Non.
Ah, il est déjà venu, lui.
Oui, Kavakos a été invité à l'orchestre du Capitole.
Il est également chef d'orchestre.
Il est également chef d'orchestre. Disons que moi, je préfère le violoniste. mais je dois dire, San Diego, évidemment, c'est un orchestre totalement inconnu. Mais comme tous ces orchestres américains, font des progrès fulgurants. Et en fait, la venue de Rafael Payare a été un moment incroyable pour eux parce qu'ils se développent incroyablement. Payare est également directeur musical de Montréal. Et surtout, c'est un chef d'orchestre comme Dudamel est issu de la fameuse école
El Sistema.
Vénézuélienne El Sistema.
Oui.
Alors, il y a eu beaucoup de jeunes chefs, etc. Mais après Dudamel, effectivement, maintenant, c'est Payare qui reprend un peu le flambeau vénézuélien.
Voilà, alors le programme, il y a encore du Shostakovich, cette fois-ci ce sera le concerto pour violon numéro 1 en la mineur. Il y aura Leonard Bernstein,
les danses symphoniques,
extrait de West Side Story, l'oiseau de feu de Stravinsky, voilà. Et puis Ortiz. Alors Ortiz, c'est un compositeur, c'est quoi? C'est un vénézuélien? Je ne sais pas qui c'est.
Franchement, je ne sais pas.
Voilà, donc
je ne sais pas, surtout qu'on l'a mis à la dernière minute. Bon, en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que l'énergie communicative de Rafael Payare va probablement faire des étincelles dans la Lograin. Et c'est une tournée en fait européenne qu'ils ont.
Donc ils font étape à Toulouse le 30 avril pour le San Diego Symphony Orchestra avec Rafael Payare et Leonidas Kavakos. De nouveau un duo mardi 25 mai avec l'autre Capuçon Gauthier, le violoncelliste, associé au pianiste Jérôme Ducrot. Si l'on voit tous les ans à Toulouse Renaud Capuçon, son frère Gauthier, alors on le voit moins souvent, mais on en est ravis parce que c'est un très très bon musicien. Il y a un programme très riche et très varié, Thierry, ce soir.
Alors voilà, c'est le retour de Gauthier, qui n'était pas venu donc depuis un moment à Toulouse. Donc toujours pareil, je leur demandais un fil rouge Beethoven, donc avec les 7 variations pour violoncelle et piano, et puis la troisième sonate pour violoncelle et piano. Et en deuxième partie, donc Gauthier et Jérôme joueront des œuvres contemporaines de Max Richter, Nico Mouly, Gabriela Montero, Einaudi, Dessner. Donc voilà, c'était en fait un programme assez ouvert et relativement facile.
Oui, donc il y aura ces 7 variations pour violoncelle et piano sur un thème de la flûte enchantée de Beethoven. On cherche une petite perle, ça.
Ein Mädchenoder Weibchen, l'air de Papageno, oui.
Oui, c'est l'air de Papageno, absolument. Ouais.
Gauthier Capuçon et Jérôme Ducrot, ils ont enregistré et fait paraître en fin d'année dernière un CD où l'on trouve la pièce Sequence for Gaia, composée par Max Richter. Ouais. C'est celle que je vous propose d'écouter maintenant. Thank you. Gauthier Capuçon et Jérôme Ducrot jouaient Sequence for Gaia, une pièce de Max Richter enregistrée sur le CD qu'ils ont fait paraître en fin d'année dernière sous le label Warner Classic. Le duo est en concert à la Halle au Grain le mardi 25 mai à 20h, avant-dernier concert de la saison, lundi 31 mai, avec un fidèle d'entre les fidèles des grands interprètes, un autre pianiste russe, Grigori Sokolov. Je disais en début d'émission que Nikolaï Lougansky était l'un des plus grands pianistes en activité. On peut dire la même chose de son aîné Sokolov. Lui aussi, comme souvent, n'a pas encore annoncé le programme qui va jouer le 31 mai. Thierry, est-ce que vous avez des informations là? Non plus.
Nous n'avons pour l'instant aucune information. Non, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un pianiste qui est un artiste majeur d'aujourd'hui, de la scène internationale. Et surtout, il donne en fait très peu de concerts, une quarantaine de concerts. Il n'accepte plus les invitations quand il ne connaît pas la salle.
Donc, c'est pour ça qu'il revient à Toulouse tous les ans.
Alors, c'est, oui, c'est
donc il apprécie la Halle au Grain, apparemment.
La Halle au Grain, enfin, de mon point de vue, d'ailleurs, est une salle à l'acoustique intéressante pour la musique de chambre, oui. Y compris d'ailleurs pour les formations baroques quand elles ne sont pas trop importantes. Ben, parce que d'abord, là, il y a une proximité absolument extraordinaire entre le public et l'artiste. Et il y a plus de résonance. En général, les solistes, les chanteurs, quand il n'y a pas de grande formation orchestrale, comme je vous le dis, non, la Halle est une salle intéressante.
Alors, Serge, vous savez, les concerts de Grigori Sokolov, le programme est en général à rallonge. Hein.
Ah oui, vous avez
des bis. Et les bis.
C'est une troisième partie, les bis.
Les bis, il a donné jusqu'à 8 bis au cours d'un concert, d'un de ses récitals à la Halle au Grain.
Non, c'est impressionnant.
On a de la chance parce que c'est un artiste quand même, franchement, très rare.
C'est un des plus grands du piano aujourd'hui, c'est certain. Dernier concert de la programmation 26-27, le mercredi 9 juin. Vous accueillez à la Halle au Grain le concert de la loge, l'ensemble sur instruments anciens, fondé et dirigé par le violoniste Julien Chauvin. Il semble que vous ayez noué avec cette formation une collaboration étroite depuis quelques années. Je m'en réjouis pour ma part parce que c'est vraiment un formidable orchestre dirigé par un passionné.
Alors, il était venu en fait pour la première fois dans les 4 saisons de Vivaldi. Oui. Chorégraphié par Karen Mozaki.
Merzouki.
Et c'était un moment assez incroyable. Le public était complètement déchaîné. On les a revus d'ailleurs il y a un mois au festival de Prelada où ils refaisaient le même programme et c'était devenu encore autre chose. Mais toujours avec les danseurs de Merzouki et Julien Chauvin qui était en fait totalement en phase avec eux, à la fois musicalement et aussi sur le plan des déplacements des musiciens. Voilà, il était avec les danseurs de Merzouki. Le Sabbat Mater de Pergolèse avec deux magnifiques chanteuses, Julie Rosé, qu'on voit de temps en temps à Toulouse,
soprano.
Et Adèle Charvet un peu plus.
Mais au soprano, alors elle, on la voit presque tous les ans au Capitole.
Au Théâtre du Capitole, voilà, et avec en première partie des œuvres de Geminiani, de Vivaldi et d'Handel pour, je pense, une très jolie clôture de saison.
Ah oui, et puis donc il y aura ce fameux Stabat Mater de Pergolèse. On a toujours autant de plaisir à entendre.
Bien sûr.
Serge, on ne peut pas s'enlacer, hein. Chef-d'œuvre vraiment de la musique baroque. Eh bien, pour vous faire entendre la belle voix d'Adèle Charvet, accompagnée par le concert de la loge, nous allons écouter un dernier extrait dans cette émission, l'air Alma Oppressa, tiré de l'opéra La Fida Ninfa d'Antonio Vivaldi. Alma Oppressa, air tiré de l'opéra La Fida Ninfa d'Antonio Vivaldi, chanté par Adèle Charvet, accompagné par le Concert de la Loge, la mezzo-soprano et l'ensemble dirigé par le violoniste Julien Chauvin donnent le dernier concert de la prochaine saison des grands interprètes, la 26-27, mercredi 9 juin à 20h à la Halle aux Grains. Nous avons donc fait le tour de la vaste et très belle programmation de cette 41e saison, pour laquelle je vous invite dès maintenant à acheter et réserver vos places et à vous abonner en vous connectant au site www.grandsinterprètes.com. Je rappelle d'autre part que la 47e édition du Festival Piano Jacobin a lieu du 8 au 30 septembre. Tous les concerts commencent à 20h et se tiennent au cloître des Jacobins, à l'exception toutefois de celui du mardi 22 septembre, donné à Saint-Pierre-des-Cuisines. Tous les détails de la programmation et la billetterie sont en ligne et sont accessibles à l'adresse www.pianojacobin.com. Tous mes remerciements à Thierry Dargoubet pour sa venue et pour sa présentation de la saison 26-27 des Grands Interprètes. Merci également à mon ami Serge Chosy pour son aide toujours précieuse dans l'animation de cette émission. Merci enfin à Marius Pujol pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr aux fidèles auditeurs et auditrices de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.